Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La joie!
La joie! Salut, c'est Louise Petrouchka.
Et salut, c'est Clément.
Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 59 du son d'après. Oh my fucking god.
Bientôt 60.
Et le dernier épisode classico de l'année 2022.
Tout à fait, madame.
Car à la fin de l'année, on vous prépare notre petit rewind et que sont-ils devenus habituels, car on adore ce rendez-vous qui a été un seul rendez-vous pour l'instant, mais ça y est, on clôture notre deuxième année. Là.
Bah, avant, il y aura un best-of avec nos artistes, albums, morceaux préférés de l'année.
Oui.
Et ensuite, pour attaquer la rentrée en janvier, un épisode rewind. Ou un petit peu où on va reparler des artistes dont on a parlé depuis le début du son d'après.
Oui, qui auraient éventuellement sorti des nouveaux projets, voilà.
Ouais, projets, morceaux qu'on aime bien.
Voilà, c'est un peu notre petite permission de pouvoir reparler de certains artistes qu'on n'a pas envie que vous oubliez finalement, car on les aime beaucoup. Mais aujourd'hui, on est sur un épisode classique, on vous ramène chacun deux morceaux, et c'est Clément qui inaugure cet épisode.
Tout à fait, bah, en l'occurrence, c'est marrant que... parler d'artistes dont on a déjà parlé, parce que là, je vais commencer aujourd'hui avec un groupe en fait qu'on a énormément cité depuis le début du son d'après, à savoir Brockhampton. J'avais envie de parler d'eux parce que le groupe a annoncé en fait en début d'année 2022 qu'il prenait une pause à durée indéterminée. Bon, ce qui concrètement veut dire séparation, hein, à part si vraiment dans... quand ils ont 50 ans et qu'ils ont envie de refaire du cash, ils se reforment, mais on n'est pas à l'abri de ça. Mais en tout cas, a priori, ils sont officiellement séparés. Et en fait, en janvier dernier, ils avaient promis quand même de sortir un dernier album. Et il se trouve que finalement, ce n'est pas un, mais deux albums qui sont sortis les 17 et 18 novembre dernier. Album, du coup, qui vient vraiment entériner la fin du groupe. Donc, j'avais envie, je trouvais que c'était un peu l'occasion quand même de parler d'eux une bonne fois pour toutes, parce qu'a priori, on ne va pas être amené à parler d'eux dans le futur, en tout cas avec des nouvelles sorties. Donc voilà, pour vous parler un petit peu de Brockhampton, en fait c'est un collectif exactement, originaire du Texas, et il est né en fait sous l'impulsion de Kevin Abstract, qui est un peu la figure la plus identifiée du groupe et une sorte de leader non officiel.
Qui ne dit pas son nom.
Voilà, exactement. et ça commence en fait en 2010, il se trouve qu'il a 13 ans à l'époque, et il publie sur un message sur un forum de fans de Kanye West, où il demande si des gens seraient chauds juste pour former un groupe. Et il se trouve qu'il reçoit du coup à l'époque une flopée de réponses. Et comme ça, ils arrivent en fait à créer une sorte de, voilà, d'entité, de groupe, qui initialement s'appelait Alive Since Forever, avant de devenir Brockhampton. Brockhampton, c'était le nom de la rue où Kevin Abstract a grandi.
Okay.
Donc voilà, c'est un collectif. Ils sont plus d'une dizaine, je crois que... un peu au pic, ils étaient 14, composés de rappeurs, de chanteurs, de producteurs, de danseurs, de créatifs, de web designers. En fait, vraiment, tout le monde est inclus là-dedans. Ça comprend aussi bien des noirs, des blancs, des gays, des hétéros. Donc, il y a vraiment une sorte de masse comme ça, je trouvais, d'énergie hyper, hyper forte qui se dégage de Brockhampton. Je trouve ça drôle d'ailleurs... ils se sont autoproclamés meilleur boys band depuis One Direction. Ce que je trouve déjà assez drôle. Bon, déjà, la ref à One Direction, je trouve, ouais, qu'ils ont un peu, tu vois, de dérision. C'est-à-dire qu'ils se prennent, je pense, pas trop au sérieux. En tout cas, dans le côté, on fait du rap. Mais voilà, on a un peu de légèreté. Et a priori, en plus, ils sont hyper attachés à l'appellation boys band. Parce que je pense, eux, ils ont grandi dans les années 90, tu vois.
C'est que des boys, du coup.
Voilà, c'est que des boys, exactement. Mais ils sont attachés, tu vois, à cette image un petit peu de boys band des années 90, en évidemment en le renouvelant, en le pimpant, en faisant clairement autre chose que, ce, qu'à l'époque, on
et
va dire.
Et je me demandais, en dehors de Kevin Abstract, est-ce qu'il y a d'autres personnes de ce groupe qui sont sorties dans, un peu avec des carrières solo ou...
Pas encore, okay, je crois. On en parlera un petit peu vers la fin de la chronique, mais je pense qu'il y a clairement des choses qui s'ouvrent pour certains, pour d'autres en fait. Bah, déjà parce qu'en fait, ils ont... Je crois que dans le groupe, à proprement parler, il y a 5 rappeurs. Okay. Mais que du coup, tu vois, la dizaine de membres à côté, du coup, il y a des DA, il y a des... Enfin, tu vois, donc eux, amenés, ils vont...
Il y a des producteurs de musique aussi,
il y a des producteurs de musique, exactement. Donc, je pense que chacun va tranquillement continuer à tracer sa route. Et l'idée, à mon avis, c'est de tout mettre, je pense que les collaborations ne vont pas s'arrêter là, quoi. Voilà, les raisons du groupe, je vous les détaillerai... Enfin, les raisons de la fin du groupe, je vous les détaillerai à la fin. Mais clairement, l'idée, c'est de... Ils sont pas partis en froid glacial, okay, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, à partir du moment où ils commencent à se former, ils sortent une première mixtape en 2016 et qui a plutôt un bon écho. Et du coup, conscient du potentiel du groupe, Kevin Abstract propose en fait à sa bande de potos de déménager à Los Angeles. Du coup, ils décident, certains arrêtent leur scolarité et ils emménagent tous ensemble dans une espèce de grande baraque pour se dédier vraiment pleinement à leur musique. Et là, du coup, commence en 2017, en fait, ils vont faire un rush de 3 albums qui s'appellent les Saturation 1, 2 et 3, qui vont sortir en gros, espacés d'à peine plus de 6 mois. Et globalement, du coup, les 3 albums sont très bien accueillis. On loue un peu, tu vois, leur énergie, leur côté punk, même leur versatilité, qui leur permet de mêler pas mal d'influences. Je sais pas, ils se dégagent globalement quelque chose de très frais, un petit peu de cette émulation de talent, quoi. Moi, je crois d'ailleurs, c'est à cette époque-là, évidemment, que j'en entends parler, je crois, avec leur premier album. J'écoute, mais sans plus. En fait, à l'époque, moi, il y avait quelque chose d'assez chaotique qui me laisse un peu sur le bord du chemin. C'est-à-dire que je dis, ok, les mecs, ils sont... Il y avait un côté un peu bresson sur lequel j'adhérais pas plus que ça. Et en fait, ce qui, pour avoir réécouté toute la discographie, ce qui est même pas le cas forcément du premier, parce qu'il y a... Il y a plein de choses, mais moi, je crois que je m'étais finalement assez vite arrêté, tu vois, au premier morceau.
Ah, ok.
Et je me mets, moi, vraiment à kiffer, en fait, avec le deuxième Saturation, et notamment le premier morceau qui s'appelle Gummy, qui est, là, en l'occurrence, quelque chose d'assez sombre, hein, qui me faisait un peu penser à ce que pouvaient faire les Flatbush Zombies dans le style un peu sombre des prods. Mm-hmm. Et ça me plaît beaucoup, d'ailleurs. Bon, vous verrez, c'est assez compliqué, c'est un groupe assez ouvert, donc... Il faudrait 10 000 extraits pour vous parler vraiment de la carrière un petit peu dans toutes les recoins qu'ils ont eu. Donc j'ai quand même envie de vous mettre un premier extrait rapide pour que vous voyez un petit peu le genre de folie, moi, qui m'a parlé. En l'occurrence, là, c'est un extrait du morceau Boogie, qui est le morceau d'ouverture du Saturation 3. Voilà, pour vous donner juste une idée un petit peu de l'énergie du groupe. Breakfast today. What are the words I'm forbidden to say? I need to let my hair down and grow up like a real ass bitch. A real ass bitch, bitch. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une sorte de premier aperçu de cette espèce d'énergie, tu vois, puissante qui se dégage de... Ouais, l'énergie, globalement, c'est vraiment le mot que j'ai envie de... Que, comme ça que je les définirais. Je trouve que du coup, ça part un peu dans tous les sens. Tu sens que le groupe, en fait, il vient pas pour te laisser tranquille, quoi. Il est là un peu pour te déstabiliser. Et moi, à ce moment-là, je sens que ça, voilà, ça me parle, cette vibe-là. Bon, du coup, après la trilogie Saturation, forcément, la hype, elle est hyper grande.
Oh, max.
Et voilà, il signe du coup un premier gros deal avec une maison de disques. Et en fait, très rapidement, dans la foulée, intervient un peu le premier gros remous dans l'histoire du groupe, à savoir que ce qu'on va appeler l'affaire Amir Van, qui est en fait l'un des membres prépondérants du groupe, qui à l'époque est accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Du coup, ça crée énormément de remous au sein du groupe, qui décide finalement de le dégager du groupe. Du coup, je crois qu'ils étaient en train de travailler, ils ont tout jeté à la poubelle à l'époque, ils ont décidé un petit peu d'aller s'isoler, et ils prennent du coup une sorte un peu de... C'est à ce moment-là que le groupe prend une sorte de nouveau virage, où on sent plus de sensibilité dans leur musique, ils partagent plus leurs peurs, les doutes, les contradictions. Le son devient du coup un peu plus ouvert, un peu plus pop. Et ils sortent un 4e album en 2018 et un 5e en 2019. Moi, l'extrait que j'ai choisi de vous diffuser aujourd'hui, c'est un extrait de ce 5e album qui s'appelle Ginger. Le morceau s'appelle Sugar. Je vais pas être le plus original du monde parce que je crois que c'est quand même l'un des morceaux qui a le plus marché. Mais moi, je l'aime tellement, et ça m'a fait prendre une sorte de nouveau virage aussi avec Brockhampton. Donc je vous propose qu'on écoute le morceau et puis on revient, on parle un petit peu de ce style là et de on finit un peu l'histoire de Brockhampton. Spending all my life so long waiting for you to call me. You're the only one I want by my side when I fall asleep. Tell me what I'm waiting for.
I'm on my ways on my own, don't need nobody, yo. Change your mind when I change my life, better start believing in myself. And we all out looking for God, so we never see it in ourselves. Shit divine and adventure and movie style. It's hard to tell what a prayer compels. You can find me dancing in between the rain, just trying to find a way to make the pain stop. All the time on the graveyard, got a nigga feeling drained. Written in all my decisions, this is not supposed to be a way of living. Turn my temple down into a prison.
Spend so long before I hit the corner. You're the only one I want by my side when I'm falling. Tell me what I'm waiting for. Tell me what I'm waiting for. I know it's hard, but we need each other. Know it's hard, but we need each other.
Yeah, back on Vince with the braces on. You slide out the back without the neighbors knowing. For the picture with the birdie whites, deadlands zooming in, catching all my strikes. Use trade drone for some money, and she gave me all I need for the night. 40 advice, morally alright, but I need some advice, and I know that I'm acting foolish. Preacher put me up around noonish. Half a blunt, yeah, we coolin'. Twisted up on all outcasts, 100 days heat, and yeah, we cruising.
Ooh, and I love you right, I love you right.
C'était Brockhampton avec le morceau Sugar.
Yay.
Je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé.
Alors, tu en as beaucoup parlé, je pense.
Ben, peut-être j'en ai beaucoup parlé. J'ai l'impression que c'était une espèce de discussion de groupe, mais du coup, non. Justement, je me disais que je ne connaissais pas exactement ton rapport à Brockhampton.
Je connais... En fait, je pense que je connais les morceaux les plus écoutés. En fait, je regarde là la discographie.
Ouais.
J'ai souvenir d'avoir écouté Ginger parce que je vois cette pochette et je sais que je me souviens que je m'étais dit genre vraiment bien. Mmh. Et pareil pour Saturation 3 parce que je me souviens pareil de la pochette qui m'avait marqué. Mais j'avoue que en dehors de ça, c'est pas un groupe qui m'a marqué plus que ça. Enfin, tu vois, genre c'est pas un album que j'aurais écouté spécialement.
Ouais.
Kevin Abstract, je me souviens qu'il y a 2-3 morceaux qu'il avait sortis en solo, pareil que j'avais écouté parce que c'était un peu les gros singles.
Ouais.
Mais je t'avoue que j'ai pas plus d'attachement que ça à Brockhampton, même si quand j'écoute, je trouve ça bien, tu vois.
Ouais, voilà, c'est ça. Parce que au-delà de ça, qu'est-ce que t'as pensé du coup de ce morceau-là là?
Bah, celui-là, je le connais forcément, parce que vraiment, c'est en effet, comme tu le disais avant qu'on lance le morceau, c'est le morceau le plus connu de Brockhampton.
Ouais, et puis je pense que c'est clairement l'un des morceaux les plus. Peut-être les plus ouverts, ouais. C'est certainement, ouais, il n'y a rien de plus simple pour commencer Brockhampton. Bah, déjà, juste entre l'extrait, tu vois, entre celui-là plus le premier extrait que je voulais passer, déjà, tu vois que l'écart, il est.
Mais du coup, comme ça m'intrigue, moi, plutôt le côté what the fuck, peut-être que j'aurais aimé en écouter un autre.
Ouais.
Mais en vrai, en soi, ça c'est très bien, tu vois. Mais je me dis pas, trop groundbreaking, j'adorerais.
De toute manière, moi je trouve que. Je trouve pas non plus qu'il casse les codes. Enfin, il n'y a pas quelque chose de tiens, c'est de la musique que j'ai jamais entendue ailleurs. Par contre, je trouve qu'il se dégage, quoi qu'il arrive, en tout cas, cette espèce de. En fait, déjà, juste l'énergie de groupe. Le fait qu'il y ait souvent sur les mêmes morceaux 4 ou 5 personnes qui posent, je trouve que déjà ça t'amène une sorte de. Ouais, de plusieurs. En fait, t'as plusieurs voix, tu vois. Je trouve ce qui fait que du coup, je m'ennuie rarement en fait quand j'écoute des morceaux de Brockhampton, quoi. Parce que tu sais que, voilà, va y avoir 4 ou 5 approches qui vont pas forcément être les mêmes, avec 4 signatures vocales aussi qui sont relativement différentes. Donc, de ce point de vue-là, je trouve ça. Moi, ça m'éclate. Ce d'autant que je trouve quand même qu'il reste quand même assez créatif musicalement, c'est-à-dire que d'un morceau à l'autre, tu vas vraiment avoir des ambiances assez différentes. Donc
ça c'est intéressant, je trouve, justement dans le côté on est un groupe et on a tous des univers différents, on réussira à tous les mettre dans.
Et ce que je trouve balèze, parce que franchement derrière ça, t'as pas l'impression que c'est des gens qui ont rien à voir ensemble. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à créer une unité. Et surtout presque sur la dizaine d'années qu'ils ont travaillé ensemble, que je trouve assez remarquable parce que il s'est vraiment dégagé quelque chose d'un groupe. Et déjà, en fait, même c'est assez peu commun finalement sur les dernières années, les côtés groupe de rap, tu vois, qui dure et qui crée quelque chose vraiment ensemble. Ouais, souvent maintenant, c'est beaucoup d'unités qui de temps en temps feat, mais l'aspect purement groupe.
Moi, j'ai souvenir de quelques trucs Bah plutôt dans les années 2010 quoi.
Ouais, peut-être bah il y a eu là bon,
si on reste de Chance the Rapper ou des trucs comme ça.
Exactement, bah et là je vais en venir, je voulais en parler un peu mais je trouve qu'il y a quelque chose dans le de toute manière dans l'énergie qui se dégage qui est un peu une sorte de prolongement aussi de ce qu'a pu être Haute Future.
Ouais.
Haute Future pour ceux qui ne connaissent pas c'est le collectif qui a lancé ou enfin où était présent Tyler the Creator, Frank Ocean, Earl Sweatshirt, Sid, pour ne citer que les plus connus, tu vois. Et je trouve qu'ils ont un peu cette même énergie sans le côté sale gosse que pouvait avoir Haute Future.
Ouais.
Vraiment Haute Future, il y avait ça. Eux, ils ont plus je trouve cette démarche, tu sens de créatif. Tu sais,
ouais.
On met en avant des personnalités qui sont relativement assez fortes et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'après le groupe, quand même, à mon avis, il y a 2-3 têtes qui vont continuer ouais. d'être présents sur la scène. Mais sous l'aspect, en tout cas, me vient tu vois, ce truc d'énergie à la fois spontanée mais calculée. C'est-à-dire
ouais,
que, boum, on se prend un flot de personnes qui en imposent et en même temps tout est très bien fait tu vois dans les visuels, les clips, même la manière de communiquer. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse un peu qui ont envie de diguer un petit peu Brockhampton, ils ont sorti je crois en 2018 une série de 7 ou 8 vidéos de 10 minutes chacune tu vois qui c'est sur la chaîne YouTube de Noisey et où tu les vois voilà un petit peu dans leur démarche créative dans qu'est-ce que fait je crois que tu suis en partie Kevin Abstract, merci. En tournée, qui est avec sur l'un de ses premiers albums solo, et puis comment ils se retrouvent, comment ils vont aussi à la rencontre de leur public. Tu les vois aussi qui retournent sur les lieux un peu où ils ont commencé tous ensemble. Donc voilà, moi j'ai pas tout regardé, hein, je vous avoue, parce que ça dure un peu plus d'une heure, donc j'ai pas eu le temps avant de préparer l'émission, mais c'est plutôt assez intéressant, j'ai l'impression en tout cas de cette plongée là et oui, puis là pour revenir quand même un petit peu au morceau, et moi surtout ce qui me plaît dans ce morceau là particulièrement et ce qui ressort beaucoup sur la deuxième partie de carrière de Future,
ouais,
bien sûr de Brockhampton, mais en fait bon, il y avait déjà des prémices un petit peu dans les premiers albums, c'est ce mélange de rap et de mélodie. En fait moi c'est toutes ces aspirations mélodiques que t'entends avec ces nouveaux projets là, moi je trouve ça hyper catchy et moi ça m'a totalement capté, et vraiment cet album Ginger, moi ça a été je l'ai énormément écouté l'année où c'est sorti parce que je me suis totalement happé par cet univers là et puis après quand tu regardes, moi je sais qu'il y a Kevin Abstract évidemment qui est un peu le leader et qui a en plus sorti des très bons projets solo à côté, donc
ouais.
Moi c'est clairement la personne que j'identifie qui est un peu Kevin Abstract, c'est une sorte de Frank Ocean en puissance. Du coup, pour en revenir un petit peu à leur histoire, du coup on s'était arrêté au cinquième album qui là les amène quand même à un niveau de fame qui est encore plus fort. Je crois qu'ils enchaînent 2 ans plus tard avec un sixième album où là ils commencent même à fitter avec d'autres artistes comme ASAP Rocky, ASAP Ferg, JPEG Mafia. Et du coup, au moment où tu pouvais dire que là ils ne faisaient que monter, est intervenue l'annonce de leur séparation début 2022. Quand tu lis certaines interviews, tu comprends qu'en coulisses, le succès, le changement de vie des uns et des autres, tout simplement, et du coup a aussi nourri un certain éloignement inévitable. Font que voilà, il y a des dissensions qui se sont formées petit à petit dans le groupe. Pas évident aussi d'être aussi nombreux, ce d'autant que le groupe était devenu même en parallèle une sorte de factory, comme ils disent. En gros, il fonctionnait comme une sorte d'agence de pub avec qui les marques avaient envie de travailler. Et c'est Kevin Abstract, dans les lyrics d'un de ses derniers morceaux, d'ailleurs, qui confesse qu'il a transformé un peu une amitié en un business et un business en un empire, quoi.
Mmh.
Et que je pense que ça a été compliqué à porter, même lui-même confesse qu'il n'est pas facile à vivre, tout simplement, dans sa manière, dans cette espèce d'obsession qu'il a de tout transformer en art.
Ouais.
Donc voilà, tout ça fait que je pense qu'ils ont décidé de se dire vaut mieux qu'on s'arrête là maintenant tant qu'on est encore en bon terme, mais avant que ça clash vraiment. Donc après oui, c'est ça, ils sont en bon terme et quand même ils nous ont livré pour conclure 2 derniers très bons albums. Le premier s'appelle The Family et en fait c'est en réalité plus un album solo de Kevin Abstract où justement il revient énormément sur les différents sujets qui éclairent un peu la fin du groupe. Musicalement, c'est chambé, moi je trouve. C'est, en tout cas, ça me parle, c'est ultra riche. Ça vient un peu chercher du côté d'une sorte de jeune Kanye West, ce qui est plutôt d'ailleurs en plus une belle manière, je trouve, de boucler la boucle, tu vois, sachant qu'ils se sont rencontrés vraiment sur un forum de fans de Kanye West. Et le deuxième, TM, sera l'une de mes premières en fait recommandations si vous connaissez pas vraiment Brockhampton, parce que je trouve que c'est une sorte de pur concentré de Brockhampton dans ce qu'ils savent faire de mieux. Donc voilà, le dernier album est peut-être, je pense, une très bonne porte d'entrée. La deuxième recommandation que je vous ferai sera évidemment l'album Ginger, qui moi est mon préféré jusqu'à présent. Et puis, j'ai bien envie de choisir un Saturation quand même. Et pour les avoir un peu tous réécoutés, c'est pas celui que j'avais le plus écouté jusqu'à présent, mais je pense quand même que le meilleur et le plus intéressant, c'est Saturation 3.
Ok.
Voilà, c'est ce que je dirais. Je peux évidemment aussi vous renvoyer aux albums solo de Kevin Abstract qui sont chambés. Bref, l'avenir est radieux tout, malgré tout pour cette bande, je pense. Brockhampton est mort, vive Brockhampton.
Très bien.
Ça sera tout. Ça sera tout pour Brockhampton. Et ce premier artiste, je te propose qu'on passe au son d'après.
De mon côté, je voudrais vous parler d'une artiste américano-dominicaine qui s'appelle Esti, et non pas Etsy comme le site de vente. Pour Google, c'est compliqué, mais Esti, E-S-T-Y. Elle est dans l'industrie musicale depuis 2014, mais a fait un break de 4 ans après son premier EP Darkroom, qui ne ressemblait pas vraiment à l'artiste qu'elle voulait être. À l'époque de cet EP, en fait, elle rencontre un des producteurs de Tyga, qui veut un peu la modeler d'une certaine manière pour la faire rentrer dans un moule, un peu de future pop star qui la convainc pas trop. Et après avoir arrêté la musique pendant plusieurs années, elle s'est remise à écrire aux alentours de 2018 accompagnée de sa guitare, et elle sort un EP qui s'appelle Catharsis, qui est chanté en anglais, qui est un peu une sorte de néo-soul R&B. Et cet EP est encore bien différent du dernier disque qu'elle a sorti en février 2022. Moi, c'est par ce projet que je la découvre, il s'appelle Estiland. Et c'est une vraie évolution musicale. D'une certaine manière, on sent qu'elle arrive à maturité de ce qu'elle souhaite transmettre musicalement, tant au niveau des paroles que de la musicalité. Et notamment parce qu'elle s'est mise à chanter dans sa langue natale, le Spanglish, comme elle dit. Donc en fait, elle alterne entre espagnol et anglais, car même si elle est native de Rhode Island, ses deux parents sont dominicains et elle a grandi dans cette double culture qu'elle a décidé d'embrasser totalement dans sa musique récemment. Et je vous propose qu'on écoute un extrait de ce disque Estiland, un de mes préférés bien sûr. Le morceau s'appelle Chibi. Chibi, tu eres como Chibi, 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 tu eres como Chibi, 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 tu eres como Chibi, Chibi, you're so cute. Chibi, 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 Naoko Takeuchi, Naoko Takeuchi, Naoko Takeuchi, tu eres como un caramelito, yo te voy a comer enterito, tu eres como un caramelito, yo te voy a comer enterito, tu eres como un caramelito, yo te voy a comer enterito, tu eres como un caramelito. Te voy a correr como un caramelito. Tú eres como cute, Chibi. Tú eres como cute, Chibi. Tú eres como cute, Chibi. Tú eres como cute. Soy la silueta dominicana, la que jala, la que tú nunca podías conseguir. Sé que antes tú me conocías, pero yo no soy la misma. Esto solo dedica a la Macorís. Eres tan Chibi, casi me lo comí. Sube, sube lo pa' que suene por ahí. Eres tan Chibi, que casi me lo comí. You're so cute. Naoko Takeuchi. Naoko Takeuchi. Naoko Takeuchi. Naoko Takeuchi. Tú eres como, tú eres como un caramelito. Yo te voy a comer enterito. Tú eres como un caramelito. Yo te voy a comer enterito. Tú eres como un caramelito. Yo te voy a comer enterita. Tú eres como un caramelito. Très efficace, 2 minutes de morceau Chibi de Esti. Est-ce que ça t'a plu, Clément ?
Écoute, j'ai trouvé ça efficace, effectivement. Après, je vais pas te mentir, je trouve que de mes petites oreilles d'auditeur, tu vois, l'ombre de Rosalia pèse beaucoup trop fort sur ce morceau.
Ah ouais.
Notamment sur le dernier album de Rosalia, le morceau Cute. Je vois énormément de similitudes, et je trouve le morceau de Rosalia plus travaillé, plus tous, tu vois, plus tout. Donc, je trouve ça efficace. Du coup, je vais danser, tu vois, je vais entendre ça dans un set, je vais danser, mais ça va pas me marquer. C'est à peu près sûr.
Très bien. Eh bien, faut savoir quand même que cette EP est sortie avant l'album de Rosalia.
Eh ben, peut-être que du coup, elle est venue lui, tu vois, elle est venue lui sucer le sang.
je ne pense pas. Mais j'entends
mais
ce que tu veux dire.
Tu vois ce que je veux dire dans le cul, ouais, la même tête, la manière de ce truc-là. Franchement, c'est que... ouais, je serais étonné que du coup, elle ait même pas eu, y ait pas une micro-inspiration, peut-être du coup de la part de Rosalia, parce que je trouve que, enfin, tu vois, ça me paraît presque la même chose.
Bah écoute, alors la même chose.
La même chose, vraiment dans cette intention, tu sais, vraiment le même le cute, comment elle le travaille.
Et le kawaii. Bah oui, de toute manière, donc déjà chibi, je vais expliquer pour les gens qui savent pas, ça veut dire enfant en japonais. D'accord. Et c'est aussi un mot qui désigne les versions jeunes des personnages dans les animés.
D'accord.
Et Esti est une fan d'animés, et notamment de Sailor Moon. Et elle dit à un moment donné dans le morceau d'ailleurs, je suis la Sailor Moon dominicaine. Et elle fait même référence à la fin du morceau à l'autrice de Sailor Moon qui s'appelle Naoko Takeshi. Et en fait, la construction du morceau, en tout cas ce qu'elle explique, c'est que avec son producteur, ils ont bossé sur le côté dembow qu'on a entendu, la rythmique dembow, donc ouais. Pour au cas où vous n'avez pas écouté tous les épisodes du son d'après, je remets du contexte sur le dembow. C'est un genre musical particulier à la République dominicaine qui s'inspire forcément du reggaeton et du dancehall, mais d'une manière un peu accélérée. Donc ce que vous avez entendu là, c'est une rythmique dembow classique. Et en même temps, ils ont bossé aussi sur tout le côté animé. Donc d'accord. C'est pour ça qu'on entend des kawaii, des cute, des machins.
Oui, plein de petits, effectivement, plein et de petits ajouts comme ça.
Voilà, et
cool.
C'est le sujet du morceau, quoi. C'est d'accord. T'es mignon, je te mangerai comme un caramel, enfin tu vois, pas caramel. Mais comme une confiserie, quoi. Donc je vois ce que tu veux dire comparé au morceau de Rosalia Cute, que je trouve. Ouais, enfin, je comprends.
Oui, non, mais en vrai, c'est pas. Moi, en fait, ce qui est évident, du coup, par rapport à la vie, tu vois, c'est que j'ai tellement en plus écouté le Rosalia, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans deux semaines, mais. Du coup, forcément, je suis parasité.
Ouais.
Je suis parasité dans l'écoute et ça me paraît tristement, du coup, pas très original. Voilà, c'est comme ça. Hein.
J'entends. J'avoue, j'avais pas pensé à Rosalia.
Ah ouais ?
Non.
Ah, c'est rigolo. Vas-y, alors, parce que par contre, moi j'ai ça, mais toi, qu'est-ce qui t'a emballé comme ça sur le morceau ou sur.
Moi j'ai découvert cette meuf via ce morceau-là.
Ok.
Mais probablement avant d'entendre Cute, parce qu'en fait,
ça fait longtemps que tu la connais ?
Ouais, je pense que ça fait bah, depuis le premier début EP. De l'année, pas depuis le premier EP, non.
D'accord.
Mais j'en avais entendu parler au début de l'année, je me souviens de son... En fait, visuellement, il y a aussi un truc qui est assez marquant, c'est qu'elle a un côté de chevelure noire, un côté de la chevelure blonde. Et du coup, bah en fait, je sais pas, juste elle m'avait marqué.
Ah ouais, je comprends.
J'avais bien aimé, elle a fait un color, ce qui était assez cool sur un de ses morceaux de cette EP-là qui s'appelle Seven Heaven. Je me suis juste dit... ah c'est cool, j'aime bien cette rythmique. Et en plus, il y a des petits trucs, tu vois, genre... Il y a des petites... Moi, je trouve que la prod, elle est intéressante parce qu'il y a plein de textures sur... en fait, elle explique qu'elle a vraiment... quand elle écoute ce morceau, elle a l'impression d'être dans l'animé, quoi.
Oh, bah c'est, ça, là-dessus, effectivement, maintenant, après coup, j'entends parce que je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a plein de petits ajouts de bruitage, de petites vocalises, etc. Ouais. qui peuvent donner cette impression-là. Mmh. Donc, ça, je vois l'intention, ouais.
Mais j'avoue que moi, si j'avais pas lu que ça venait de là, etc., j'aurais pas eu les rêves, tu vois. J'étais juste en mode genre, ok, c'est cool, j'aime bien qu'il y ait plein de petits bruitages et that's it, tu vois. Et puis en fait, je découvre qu'elle est giga fan d'animé, de jeux vidéo, qu'elle est à donf sur les NFT, le métaverse et tout machin. Genre, c'est une grosse geek et du coup, ça me fait rire de voir comment elle incorpore ça à ses morceaux.
Ouais.
Voilà. Et du coup, j'avais pas spécialement pris le temps de me dire, ok, c'est Rosalia ou c'est je sais pas qui. Je m'étais juste dit, ok, c'est du dembow, version un peu. Qui sort des sentiers parce que
moi c'est juste que je dois avoir très peu de références et que du coup instinctivement ça vient coller à quelque chose que je connais assez peu et tu le disais par contre je trouve ça efficace et que du coup effectivement dans un set je danse tu vois mais je pense que c'est pas le morceau sur ce type de voilà parce que la rythmique effectivement elle est quand même assez simpliste parce que ça me rappelle certaines choses que je connais déjà je pense que du coup ça va pas me
Ouais.
C'est pas le morceau sur lequel j'aime retourner, quoi.
J'entends. Mais en tout cas, moi, je trouve que ce morceau est très cool et surtout l'EP est très très bien. Elle y mélange plusieurs genres sans que ça fasse trop fouillis. Et on retrouve par exemple un sample de Shabba Ranks, qui est un MC dancehall des années 90, sur le morceau qui clôture le projet qui s'appelle Break My Phone. Et je le disais tout à l'heure, pour l'intro qui s'appelle Seven Heaven, elle a fait une session chez Colors qui est très bien. C'est un truc un peu bouncy, avec des gros kicks et une grosse basse 808 qui donne bien envie de s'ambiancer. Et il y a aussi des trucs, enfin tu vois, genre c'est un peu le côté moins mignon de ce qu'on vient d'écouter, quoi.
Ouais.
Et puis il y a aussi Home, qui est un autre single qui a un peu plus de groove avec une basse un peu comme on aime ici. Et il y a un titre qui s'appelle I Forgot Your Birthday, qui oscille un peu, je trouve, entre une espèce de sorte d'Ariana Grande à certains moments dans le refrain, et je le dis comme un compliment, et à d'autres trucs un peu hyper pop, tu vois, genre c'est
on
un
aime
peu
Ariana Grande ici.
Ouais, j'adore. Et enfin, j'adore les derniers albums.
D'accord, moi aussi.
et du coup, voilà, j'avais envie de vous parler d'elle, parce que je trouve que cette EP est très bien, qu'elle débute plus ou moins, parce qu'en fait ses albums d'avant sont, enfin ses EP d'avant sont vraiment hyper différents, donc je trouve que là vraiment elle a sa patte, quoi. Et du coup, ouais, je me suis dit faut la ramener, en plus c'est marrant, elle a toute une espèce de hype autour de dans TikTok. En gros, elle fait du roller skating, donc elle est sur patin, et donc elle a plein de vidéos d'elle sur patin, etc. Et en fait, il y a des gens qui ont découvert sa musique dans la communauté de roller skating parce qu'elle faisait des TikTok avec.
Okay.
Et donc du coup, maintenant, il y a plein de gens qui font des chorés en roller skate, donc ça me
pour
fait
la
trop,
dédicacer,
ça ouais, me fait trop rire. Donc il y a une espèce de hype dans une communauté TikTok bien spécifique, et ça m'a fait rire quand j'ai découvert ça, parce que moi je ne saurais pas vous dire honnêtement comment je l'ai découverte, mais je me souviens qu'elle est arrivée à un moment donné dans mon univers et j'ai fait oui, c'est oui.
Tu peux rentrer.
Tu peux rentrer, viens avec moi. Et donc pour prolonger l'écoute, bien sûr, je vous recommande d'aller écouter Estyland, et notamment, là dernièrement, il y a un remix de Chibi qui est sorti par un certain Nick Leon, dont on parlait à l'épisode avec Anako. Et pour le coup, c'est pareil, ça a fait une nouvelle fusion de genre encore, et j'ai trouvé ça vraiment cool, le morceau. Quand j'ai vu qu'il était sorti, j'étais vraiment « Oh oui, super !» Enfin, genre, j'ai vraiment crié chez moi. Dans un autre genre, du coup, je trouve que ça vaut le coup aussi d'aller écouter son EP de 2018 qui s'appelle Cathartic, qui est beaucoup plus soul, qui est en anglais. Ça change d'ambiance, mais c'est aussi très joli. Et puis, y a un truc un peu plus posé comparé à ce que vous venez d'entendre là, mais à la totalité de l'EP. Et un morceau un peu décisif, je pense, dans son changement musical. Ça a été un single qu'elle a sorti en 2019 qui s'appelle Mantequilla, qui veut dire beurre.
Tout à fait.
Et voilà, qui est toi tu révises l'espagnol,
oui,
voilà. Et qui est le premier titre un peu de cette nouvelle ère musicale qu'elle explore en ce moment. C'est un peu plus R&B avec un refrain un peu sensuel qui donne envie de chanter avec elle, et moi j'aime beaucoup. Et je tiens à préciser aussi que les prods de Estyland sont faites par un mec qui s'appelle Kira Waters, qui a un pseudo incroyable qui s'appelle The Idiot. Voilà.
Intéressant. Ok, c'est son nom d'artiste.
Et c'est son nom d'artiste.
Ok,
The Idiot.
Bien. Donc c'est produit par The Idiot.
Voilà, exactement. Okay. Donc voilà, c'était Esty, et on peut passer au son d'après.
Et bien, pour continuer cet épisode, j'ai envie de vous parler d'un producteur de musique électronique qui s'appelle Gold Panda. Et quand je pense à Gold Panda, moi, ça me ramène en 2010. À ce moment-là, il faut savoir que je viens de finir mon école de cinéma. Je viens de finir mon école de cinéma. Je quitte le foyer familial pour vivre à Paris en coloc. Je commence à bosser et aussi à faire pas mal la fête, profiter pleinement de cette nouvelle vie qui commence de jeune adulte. Mmh. Et à cette période-là, du coup, on écoutait avec ma bande de potes pas mal de choses différentes, et notamment pas mal de musique électronique. Et parmi les découvertes que je peux faire, en l'occurrence dans les pages des In Rock, je tombe sur le premier album de Gold Panda. Le morceau tout de suite qui me capte, je crois que c'est le morceau qui ouvre l'album, il s'appelle You. Et c'est devenu très rapidement, tu sais, pour nous, une sorte de d'hymne, quoi. En tout cas, l'un des morceaux qui réunit tout le monde.
Okay.
Du coup, je fais cette découverte à l'époque, et dans les semaines qui vont suivre cette découverte, moi je vais vivre l'un de mes étés les plus mémorables, où on va enchaîner avec toute cette bande des festivals, et notamment celui de Dour, fameux rendez-vous musical chez nos voisins belges, et où on verra Gold Panda en live. Et ça, j'en garde un moment assez magique, tu vois, de de se prendre cet hymne avec tes copains dans un festival, t'es un peu bien, tu vois, t'es un peu léger. c'était vraiment un
pas
super moment.
Complètement arrachos.
Un petit peu. Et du coup, voilà, Golpanda, qui c'est ? Ben, en fait, il est né dans les années 80 à Peckham, banlieue du sud de Londres. Et il commence la musique en fait en bidouillant avec un sampler sur lequel du coup il crée un peu ses premières boucles de hip-hop. Et de fil en aiguille, il se fait repérer par le label Wichita grâce à ses remixes. En fait, c'est vraiment comme ça qu'il se fait repérer, tu vois.
Ok.
Et il commence du coup à sortir ses premières productions originales. Son premier single qui s'appelle Quitter's Raga sera tout de suite désigné comme l'une des découvertes de l'année par le magazine Pitchfork. Donc tu vois, il y a une attente qui monte et le premier album qui suit dans la foulée est très bien accueilli puisque le Guardian le désigne carrément meilleur album de l'année et qui sera nominé à l'équivalent des Grammy anglais, quoi.
Ok.
Donc voilà, bref, un très bon album qui est resté gravé moi dans ma mémoire. Et depuis, il a sorti d'autres projets. Mais si je vous parle de Golpanda aujourd'hui, c'est parce qu'il a sorti en fait tout récemment un nouvel album et il y a quelques semaines et ça m'a beaucoup plu. Donc je vous propose donc qu'on écoute un peu de musique après tout ce blabla, parce pour que vous puissiez un petit peu écouter à quoi ça ressemble. Je vous propose donc le morceau The Dream sur son dernier album qui s'appelle The Work. C'était Golpanda avec le morceau The Dream. Je me tourne vers toi. Je suis assez curieux de savoir ce que tu en as pensé. Ouh, toi, ça a pas aimé.
Pas vraiment ma cave de musique. Ouais. En fait, je dis c'est pas vraiment ma cave de musique. J'ai dû écouter ça. Ça me rappelle. En fait, ça me rappelle un peu des. Pour moi, c'est de la musique de gars fans de musique.
C'est-à-dire ?
C'est de la musique de gars fans de synthé modulaire, de mec qui a une MPC chez lui et qui adore jouer sur ses boutons. Enfin, en fait, littéralement, quand j'écoute cette musique, j'ai l'impression de visualiser une MPC. Donc, les MPC, c'est les trucs de sampling, là. Et vraiment, de voir le gars appuyer sur ses boutons et dire « Ok, là, hop, il y a mon sample qui va là, et là, il y a mon autre sample, et hop, machin. » Et du coup... j'ai pas d'attachement émotionnel.
Ça, musicalement, ouais, t'arrives pas à ça arrive pas à t'englober, quoi.
Bah, enfin... c'est ouais, pas tant de m'englober, mais il y a un truc qui me touche pas là. J'entends, en fait, j'ai l'impression d'entendre une suite de samples où j'imagine que, enfin, tu vois, genre, j'imagine que c'est joli et tout, mais ça fait un peu lofi pop compliqué quand même.
Ouais, un peu moins simpliste dans l'approche. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et en fait, ça me fait penser à des gars, je sais pas, comme Fakir, Shigeto, des trucs comme ça. Moi, je me souviens que j'avais vu Shigeto, qui est pareil, un producteur qui, lui, producteur-batteur, en live. Et j'avais adoré le live, mais j'irais pas écouter sa musique outre mesure, tu vois. Parce que je pense que c'est un truc un peu de. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas un truc qui me touche.
Bah après,
peu besoin d'être touché musicalement.
Tu parlais de musique lofi, je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense que de toute manière, moi j'écoute Golpanda dans ce type de moment là, c'est à dire c'est quand même une musique qui est faite plus pour m'accompagner, même si à mon avis je suis comme des bonobos, des mecs comme ça, je pense qu'en live ça doit quand même être, ça peut être chouette, enfin tu vois, pour une sorte de moment assez apaisant, mais après oui c'est pas de la musique pour moi de premier plan, tu vois, ou en tout cas d'écoute hyper active. Moi c'est vraiment justement une musique qui est faite pour me Ouais, pour m'accompagner, et tu vois, si je le ramène là, en plus, c'est l'hiver, moi, c'est que Gold Panda, tu vois, il a 2-3 albums où, pour moi, c'est parfait, c'était dimanche après-midi, où tu veux chiller, rien foutre, tu te mets
ouais,
sous un plaid.
Tu mets ça en fond pendant voilà, que tu lis.
Voilà, tu vois, c'est gris, en plus, je trouve que c'est vraiment de la musique portant gris, enfin, je trouve que moi, en tout cas, c'est ce que ça m'évoque, tu vois. Et donc, là, vu la période qu'on est en train de traverser, je trouve que c'était pour ça que je le ramenais, quoi. Mais j'entends, alors moi, c'est vrai que c'est tout l'inverse, parce que cette manière de faire de la musique, moi, à plein de niveaux, me touche énormément. D'abord dans les sonorités. Je te disais, tu sais, en antenne, c'est rigolo quand tu... Là, du coup, quand on travaille sur un artiste en le ramenant ici. Moi, en l'occurrence, Gold Panda, tu vois, je n'avais fait qu'écouter sa musique, mais je m'étais jamais plus intéressé à qui était l'artiste, d'où il venait ou quoi.
Ouais.
Et c'est intéressant parce que là, du coup, j'ai lu qu'il avait quand même des origines indiennes. Je sais aussi qu'il a, du coup, énormément voyagé au Japon. Et je trouve que quand tu écoutes sa musique, ça se ressent en fait, ça s'entend parce que dans les sons qu'il utilise, de toutes les sonorités, je trouve qu'on est sur quelque chose du coup qui est plus original, en tout cas qui sort des samples un peu plus bateau,
oui,
quoi.
De,
tu
oui,
vois, dans les choix
on est
des
pas
instruments.
Sur un sample de vinyle et de...
Exactement, et donc je trouve qu'il y a pas mal de cordes sur ces albums, de cordes indiennes ou de sonorités plus, plus orientales, quoi. Et du coup, ça me fait comprendre pourquoi en fait la musique de Gold Panda, je l'ai toujours quand même mis à part, tu vois, enfin à part, ou en tout cas elle m'a marqué, parce que musicalement ça m'emmène ailleurs, et c'est évident, du coup ça me donne il y a quelque chose de très aérien, tu vois, de très mélancolique, qui me touche dans sa musique particulièrement, parce que là je vous parlais d'hymne, de festival, tu vois, comme si c'était un peu une musique de carnaval, mais en fait globalement la tonalité de sa musique, elle est beaucoup plus planante, comme ce que je vous ai passé là, quoi. Donc ça me fait voyager, tu vois, il y a quelque chose de doux qui me berce, et ouais, c'est ça, et qui de toute manière m'emmène ailleurs. Et l'autre aspect, tu parlais effectivement là du mec qui bidouille sur son sur son pad, je suis d'accord avec toi, moi j'avoue que j'aime beaucoup cette manière de découper les samples, tu sais, cette manière de faire presque de la musique saccadée. C'est où t'as, pour les plus vieux d'entre vous qui ont eu des CD qui ont pu bugger ou qui étaient rayés, tu sais, ce truc où tu mettais dans le lecteur CD et en fait t'avais vraiment cette espèce de saccade de parce que ton CD était bousillé, quoi. Et ben il y a ça dans cette il reproduit ça un petit peu dans sa musique électronique, mais qui, je trouve en tout cas, fait partie du style de Gold Panda qui me parle bien. Et du coup, voilà, c'était l'occasion parce que ce nouvel album, je l'ai vraiment beaucoup aimé. On est en territoire connu pour ceux qui aiment la musique de Gold Panda, mais voilà, c'est toujours plaisant parce que tu passes juste une bonne ride, mais tu vois, ride cocooning, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, t'es chez toi. Bon, alors, le vrai bémol, c'est que la pochette est éclatée au sol. Vraiment, la pochette de l'album, ça ressemble à une sorte de...
De soleil.
Ouais, de soleil, mais tu sais, je sais pas, t'as l'impression que c'est fait par ordinateur, on dirait une sorte de mauvais papier peint pour enfants, tu sais.
Ouais, bref. Bah c'est, on dirait du pixel art. Non,
ah ouais.
C'est pas vraiment du pixel art,
non,
mais bof. Pour moi, cette pochette va très bien avec la musique que j'ai entendue. Hein.
Ah ouais,
mentir,
moi je trouve que ça, en tout cas, ça a vraiment... Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, alors que je trouve que ces autres pochettes avaient été un peu plus créatives. Bon, mais là, c'est vraiment un petit bémol dont on se fout royalement, vous me direz, quand on écoute de la musique, et c'est bien vrai. Pour prolonger l'écoute, donc son nouvel album, évidemment, The Work. Je vous recommande son premier album, qui s'appelle Lucky Shiner. Et puis moi, je vais peut-être vous parler peut-être de son deuxième, je crois qu'il s'appelle Good Luck and Do Your Best, qui est peut-être mon préféré, à l'image de son nouvel album, qui sera parfaitement accompagné, les journées grises et froides de l'hiver.
Amazing.
Voilà, c'est tout pour moi. On peut passer au son d'après.
Écoutez, on termine cet épisode avec mon nouveau chouchou. J'ai nommé Jay Brownie. Déjà, en blaze incroyable. Ensuite, je l'ai découvert le mois dernier grâce à mon pote Johan, que je remercie infiniment. En fait, il était à Paname pour le concert de Kendrick Lamar à Bercy. Et mon pote Johan, c'est un de mes potes avec qui j'étais à la programmation musicale de Prune. D'accord. Donc quand il me fait des recos musicales, je l'écoute. T'écoute. Et je suis attentive. Et donc là, il me dit, ouais, faudrait que t'écoutes.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home.
both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Écoute, Jabroni, c'est pas mal, machin, non, on échange des trucs, moi je lui dis écoute ça, c'est super, blablabla. Et, comme toujours, on passe 40 minutes à parler de musique, il me dit ça, je suis en mode ok, j'ajoute à ma bibliothèque, et j'ai attendu 2 semaines, 3 semaines pour l'écouter, alors que j'aurais dû le faire tout de suite. Voilà. Le projet de Jabroni s'appelle Exord, il est sorti en juin 2022, et c'est franchement un de mes coups de cœur de cette fin d'année. Si je devais le situer musicalement, et je pense que Clément, ça va te plaire, je dirais que c'est dans la lignée de Towson et Bakary en termes de mélodie.
Ok, ouais,
avec
ça me parle.
Un twist plus afro, notamment congolais, parce qu'il a grandi à Kinshasa avec un père guitariste de Koffi Olomide, donc une icône de la rumba congolaise et du ndobolo. Mm-hmm. Et il infuse sa musique des mélodies de guitare de son père, mais aussi de trap, de R&B et de rap, avec une signature vocale comme on aime. Franchement, il y a peu de chances pour que ça te plaise pas.
Okay.
Je pense que ça coche toutes les cases. Je vous propose que je n'en dise pas plus et qu'on écoute tout de suite un extrait de son EP qui s'appelle Ghetto Boy. Boy de Jabroni. Et je me tourne vers Clément parce que je l'ai hypé. Du coup, je me demande si ma hype était à la hauteur.
Écoute, je sais pas si c'est à la hauteur, mais j'ai passé un très bon moment.
Ouais.
Et fait, clairement, il a une petite touche qui me donne envie d'aller écouter le projet.
Ouais.
Par contre, ça me fait rire parce que tu sais, moi, à qui j'ai pensé quand je l'entends au niveau de la voix?
Non.
Moi, il me fait penser à The Weeknd. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une vibe The Weeknd dans la voix, tu sais, dans la manière de
chanter,
vibrer, de chanter, etc.
Et
plus afro, tu vois, dans tout simplement dans la musicalité. Mais même, je trouve que en vrai, The Weeknd qui pose là-dessus, je serais pas déstabilisé, quoi. En tout
et
cas,
ben,
j'ai l'impression d'entendre une sorte de cousin de The Weeknd et tout. Donc,
comme quoi, je le déteste pas totalement.
C'est un vrai compliment parce que effectivement, The Weeknd, c'est quand même, c'est pas n'importe qui, tu vois.
Tout à fait.
Et ouais, ça me fait penser un peu à cette vibe-là. En tout cas, c'est cette manière de chanter, tu vois.
Mm.
Et du coup, vas-y, curieux.
En tout cas, tu vois ce que je veux dire par la signature vocale de ce gars. Quand on l'entend, tu te dis, bon, a priori, si je l'entends dans d'autres morceaux, ça sera clair que ça sera lui qui chante, tu vois.
Il y a moyen, parce que, bah, tu vois, effectivement, bon, on parlait du week-end, mais c'est vrai que j'ai, en français, dit comme ça, j'entends pas ça tous les 4 matins,
ouais.
Donc, curieux.
Moi, j'ai choisi ce morceau simplement parce que c'était celui qui avait le moins d'écoute sur le projet, pour vous convaincre. Je me dis, si vous avez kiffé ça, vous allez aimer le reste de l'EP. Parce que franchement, c'était hyper frustrant de devoir choisir un seul titre. Parce qu'en fait, moi, cet EP, je le lance et je l'écoute de A à Z. Il n'y a pas un seul morceau à skipper. Moi, je trouve que tout est vraiment bien. J'ai beaucoup hésité avec le deuxième titre de l'EP qui s'appelle Rockstar, où il pose sur une prod bien trap, un peu un autre aspect de son projet, on va dire. Mais globalement, je vais pas mentir, j'ai pas 150 000 choses à dire sur Gibroni déjà parce qu'il y a aucun article. Donc en fait, pour la biographie, j'étais vraiment limitée à le site de son label qui, qui a donné 10 lignes, donc on n'est pas sur grand chose.
Et du coup, qui a repris et repris et repris sur tous les autres potentiels articles qui ont pu être écrits.
Ouais, non, mais même pas,
rien.
Tu vois, genre il y a 3 articles de Bouscapé qui disent il a sorti un clip et je suis en mode oui, bah super, merci, j'avais vu qu'il avait sorti des clips. Donc j'ai pas grand chose, j'étais un peu frustrée, je me disais, putain, il y a bien Grunt qui a fait une interview quelque part. Non, bon bah, tant pis. Et du coup, moi, juste musicalement, ça me donne envie de bouger, de chanter, et je vous l'accorde, les paroles sont parfois assez redondantes, on n'est pas non plus sur un truc où...
Oh, c'est pas une originalité folle,
voilà,
mais bon.
Où c'est les paroles qui vont me leader, quoi, mais pour moi, c'est un peu comme du Taiki, du Franglish, j'écoute ça pas pour être en accord avec les lyrics, mais principalement parce que je trouve que l'ensemble musical entre la prod, la voix et les mélodies, c'est incroyablement efficace, et je trouve impressionnant un peu la manière qu'il a de s'adapter un peu à tout type de prod et d'univers, ce qui me fait une très belle transition vers les recos, car en plus de son EP Exorde, qui veut dire prélude d'ailleurs, donc c'est un peu sa manière de se présenter, je pense, musicalement, il a sorti plusieurs nouveaux singles depuis, et notamment deux très différents l'un de l'autre. Il bosse en ce moment en fait sur un projet en collaboration avec le producteur Flemme.
Ah bah oui, ok, d'accord.
Qui est un des producteurs du 667. C'est lui qui produit notamment sur Freezrael et sur Rap Catéchisme deux énormes tubes du projet LFM de Freeze Corleone. Et du coup, Gibroni a sorti en octobre un premier single extrait de ce projet avec Flemme qui s'appelle Movie en featuring avec nul autre que Freeze Corleone, bien sûr. Et n'étant pas particulièrement attaché à Freeze, j'avoue que moi, c'est pas le morceau qui m'a le plus marqué. Mm-hmm. Mais je le mentionne quand même parce que je trouve ça intéressant qu'il s'allie à un producteur de drill pour un projet complet.
Tout à fait. Bah, déjà, juste le fait de savoir que sur ce projet qu'il a sorti déjà, il y a des sonorités trap et tout, je suis curieux parce que c'est vrai que quand on entend le morceau que tu viens de nous diffuser,
tu te dis pas ça.
Ouais, c'est pas ça, ouais, paraît pas hyper logique, quoi.
Pour moi, il est inclassable, tu vois, genre c'est comme tous les un peu comme plein d'artistes là qui arrivent dernièrement, c'est genre on n'a pas envie de se mettre dans une case, si on veut chanter on chante, si on veut rapper on rappe, et on va rapper sur tout sur quoi on a envie, tu vois, genre il y a pas de définition, enfin tu vois, genre c'est pas de la drill, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est juste prenons ce qui nous plaît et mettons ça dans un projet et ça sera cohérent parce que c'est tout ce qu'on aime,
quoi.
Tu vois, voilà, exactement. Le projet avec Flemme était censé sortir fin 2022, mais la fin du mois approche et il n'y a pas encore de date annoncée à l'heure où on enregistre, et de ce que j'ai vu sur Instagram quand il a partagé le morceau avec Freeze, a priori on part plutôt sur 2023, tranquille. Par contre, le projet a un titre, ça devrait s'appeler Fait d'hiver. Et ensuite, du coup, je voudrais vous recommander un autre single qui est sorti récemment qui s'appelle Mélancolie. Toute autre ambiance, puisque vraiment là, on est vraiment sur un track afro-pop de Lover, comme il sait très bien faire aussi. Mais du coup, je pense qu'en écoutant ça, ça vous donnera un peu une idée de la souplesse musicale du gars, parce que vraiment, il peut se mettre sur tout et ça marche, quoi. Et moi, ce que j'aime bien aussi sur le morceau Movie, c'est en fait Freeze, il sort pas de son personnage, tu vois, c'est Freeze. Et donc du coup, avoir un peu un Gibroni sur le côté qui chante et qui dit des trucs enfin tu vois, genre un peu moins Bresson, t'es en mode c'est quand même bien, enfin en tout cas pour moi c'est quand même pas mal. Et voilà, quoi, c'était Gibroni. Je vous invite vraiment 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 à aller écouter l'EP Exorde, parce que pour moi franchement, j'ai renvoyé un message à Joanne en mode c'est toi qui m'avais envoyé ça, non, c'est vraiment incroyable. J'adore. Donc je serais contente qu'il puisse être dans cette année 2022 du son d'après.
Parfait, bah ouais, moi du coup je vais clairement aller écouter ça.
Ouais.
Poser
tu me diras ce que t'en penses.
Ouais, tout à fait. Juste, je dois le mentionner, mais c'est pas grave, mais c'est LMF et pas LFM de Freeze Corleone.
Ah bah non, mais tu fais bien de... Okay.
Voilà, parce que c'est la menace fantôme.
Ah, la menace fantôme.
Et voilà, okay. C'est le raccourci. Mais il fallait que ça soit juste mentionné pour
oui, tu fais bien, voilà. Pour voir à quel point je suis passionnée par Freeze Corleone.
Oui, bah du coup, c'est la fin de l'épisode.
Oui,
exactement.
Voilà.
Et bah écoutez, si ça vous a plu, déjà, vous pouvez retrouver les 4 morceaux dans la playlist du son d'après. Ça, c'est déjà une chose. Mise à jour tous les lundis avec les épisodes, tous les noms artistes, noms d'albums, enfin tout ce qu'on aurait pu mentionner, vous pouvez les retrouver dans les notes du podcast, bien orthographiées et sans accent évidemment. Et puis vous savez que si vous aimez ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur les plateformes Apple Music et Spotify, ça nous aide, voilà, pour le référencement. Et évidemment, sinon, l'autre chose qui marche très bien, c'est d'en parler aux copains, aux copines, à la famille, à tout votre entourage ceux qui écoutent de la musique et qui seraient susceptibles d'être curieux de nouvelles découvertes. Voilà, c'est un peu notre credo, vous le savez maintenant après 59 épisodes.
Wow.
Merci encore à vous d'être tous là et de nous écouter. Je crois que c'est tout pour cet épisode, Louise.
Eh oui.
Et qu'est-ce qu'on se dit du coup?
À dans deux semaines.